Pendant tout l'été, entre 13h et 14h, Serge Sauvion vous présente Crime Story et revient sur l'histoire d'Enquête policière. L'épisode d'aujourd'hui, c'est Étrange Film.
La petite banque semble tranquille. À part les trois voitures de police garées devant, rien n'indique le hold-up qui vient d'avoir lieu. Pas de violence, pas de casse. C'est vraiment du bon travail. Lorsque j'entre dans la salle, j'ai quand même une bonne surprise. Hélène Duncan se précipite vers moi et me dit « Lieutenant, une caméra automatique a filmé le hold-up. » Vous pouvez me donner une description du voleur ? Elle soupire en frottant ses poignets douloureux. Un agent vient de lui ôter la chaîne qu'il attachait au distributeur à café.
Ben, il était brun, de taille moyenne, dans un imperméable beige.
Oui. Bref, il ressemblait à quelques millions d'Américains.
Ben, vous êtes drôle, s'indigne-t-elle. Vous croyez que c'est facile de reconnaître un individu masqué ?
Masqué ?
Ben oui. Il portait un masque d'enfant, un masque de Blanche-Neige.
À mon tour de soupirer. Bah, nous n'irons pas bien loin avec ça.
Et ce film ?
Elle me montre une petite ouverture rectangulaire sur le mur du fond.
La caméra est là. Je peux la mettre en marche quand je veux, grâce à un petit bouton sous mon bureau.
Dites-moi, à propos de bouton, pourquoi est-ce que vous n'avez pas déclenché l'alarme ?
Ben, je tiens à la vie, moi. Cette alarme fait un vacarme d'enfer. Il m'aurait abattu tout de suite.
Évidemment. Je peux pas lui en vouloir. Mon métier serait trop facile si tous les gens se comportaient comme des héros. Bon. Je vais aller visionner ce film. Je vois pas très bien ce qu'il pourra nous apprendre, puisque le type était masqué. Enfin, on sait jamais, hein. Y a peut-être un détail qui me mettra sur la piste. Un adjoint me tend la pellicule. Je me dirige vers la porte lorsqu'il me vient une idée. Au fait, est-ce qu'il avait des clés sur lui ?
Oh, en voilà une drôle de question,
plaisante-t-elle.
Je lui ai pas fait les poches ?
Non, bien sûr, mais vous auriez pu entendre un cliquetis lorsqu'il marchait.
Elle hoche la tête, pensive. Ça ne m'a pas frappé. À vrai dire, j'avais d'autres soucis en tête.
Oui, je comprends. Remettez-vous bien, mademoiselle Duncan. J'aurais peut-être d'autres questions à vous poser après avoir vu les images.
À votre service, lieutenant.
À la première vision, le film ne m'apprend pas grand-chose. Le type masqué est entré dans la banque. Il est 17h50 à la pendule au-dessus de la porte. Il sort un revolver de son imperméable. Hélène Duncan lève les bras en l'air. Il l'attache avec une chaîne au distributeur à café, puis il fonce vers les coffres. Il est 17h58 quand il quitte la banque. Mademoiselle Duncan hurle au secours, et voilà, le film s'arrête. Bonjour, mademoiselle Duncan.
Bonjour, lieutenant. Alors, du nouveau ?
Bon, pas vraiment. La seule conclusion que j'ai tirée de ce film, c'est que je ne mettrai jamais mon argent dans votre banque. Vous savez, soupire-t-elle, il y a des hold-up dans toutes les banques du monde. Ce qui me rend méfiant, c'est que personne n'est entré pendant le hold-up. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de clients. J'en déduis donc que vos affaires marchent mal.
Hélène Duncan prend un air indigné.
Mais pas du tout. Le vendredi, les gens partent tôt à la campagne. L'après-midi, nous n'avons pratiquement aucun travail. En revanche, les autres jours, il y a souvent la queue. Vous pensez que le voleur était au courant et qu'il est venu exprès pendant cette période creuse ?
Ça, c'est possible. Mais je ne crois pas que ça vous avance beaucoup. Toute la ville sait que le vendredi, à l'heure de la fermeture, il n'y a personne, vraiment personne.
Elle marque une hésitation comme si elle tentait de se rappeler un détail. Vous pensez à quelque chose ? Elle reste un instant bouche bée. Puis revenant à elle, elle me dit en souriant « Non,
excusez-moi, je pensais à toute autre chose. Un rendez-vous que je craignais d'avoir oublié. »
Un rendez-vous galant, sans doute. Bon, je vous laisse. Amusez-vous bien. La nuit est tombée. Je roule tranquillement vers ma maison quand une voiture me double en trombe. Dépasser une voiture de police à plus de 140 à l'heure, c'est vraiment de la folie. Tant pis pour lui. Je mets ma sirène en route et je me lance à sa poursuite. Il continue à foncer pendant près de 2 kilomètres et soudain, il s'arrête. Je me garde derrière lui et je me prépare à sortir. Mais tout cela me semble bizarre tout à coup. Pourquoi ce type m'a-t-il doublé à toute allure? Il avait clairement vu « police » écrit à l'arrière de ma voiture. Et pourquoi s'est-il rangé soudain sur le bas-côté? Le coin est désert, idéal pour un guet-apens. J'attrape mon P38 dans la boîte à gants, je marche lentement vers la voiture. Le type au volant ne bouge pas. Il attend sans doute que j'arrive devant lui. Il me prend vraiment pour un imbécile. C'est l'un des premiers trucs que j'ai appris à l'école de police, il y a bien longtemps déjà. Les fous du volant se retournent toujours quand un flic les arrête. Ils ont peur. Ils veulent voir si le policier a l'air d'une brute ou s'il y a moyen de s'arranger. Or, celui-ci ne bouge pas. Lorsque j'arrive à hauteur de son épaule, je m'arrête. Je serre mon P38 dans la main et je fais sauter le cran de sûreté. Brusquement, il ouvre la portière et il se jette sur le sol, revolver au poing. Une fraction de seconde avant lui, je tire. Ma balle le projette en arrière. Il tire à son tour, mais son coup de feu se perd dans les étoiles. Lentement, il retombe en arrière. Je me précipite, mais en voyant son regard fixe, je range mon arme. En voilà un qui ne roulera plus qu'à vitesse réduite, en corbillard. Un quart d'heure plus tard, une sirène se fait entendre. J'ai prévenu le commissariat. Je ne travaille pas depuis longtemps dans cette ville aussi. Le type que j'ai tué m'est inconnu. En revanche, dès qu'il arrive près de moi, le sergent Spencer affiche un large sourire. Mais c'est cette vieille crapule de Tracy. Celui-là, on peut dire que personne ne le regrettera. Il s'appelle Jim Tracy, lieutenant. Un voyou des environs. Je l'ai arrêté il y a près d'un an pour un hold-up dans la région. Mais à l'époque, j'ai dû le relâcher, faute de preuves. Et cette fois, qu'est-ce qu'il avait encore fait? Je l'ai pris en chasse parce qu'il roulait trop vite. Mais en fait, je crois qu'il voulait m'attirer dans un traquenard. Il devait être mêlé au hold-up de Wallisfield. C'est moi qui m'occupe de l'affaire. De plus, la banque m'a remis un film du hold-up grâce à une caméra automatique. Il avait sans doute peur qu'un détail me mette sur la voie. Tout cela semble maintenant sans importance, puisque le voleur est mort. Rarement j'aurais élucidé une affaire aussi vite. Trop vite même, me dis-je en roulant doucement vers ma maison. Il reste trop de détails qui clochent. Spencer me dit que ce type vivait ici. Mais alors, il savait comme tout le monde que la banque était équipée d'une caméra. Pourquoi a-t-il pris le risque de l'attaquer? Et puis, je ne vois vraiment pas de quoi il a pu avoir peur. Tracy était méconnaissable dans le film. J'aurais jamais pu mettre la main sur lui. Alors, pourquoi s'est-il jeté dans la gueule du loup? Il faut que je visionne à nouveau cette bobine. La clé de ce curieux hold-up s'y trouve certainement. Après un petit entracte, vous retrouverez cet étrange film.
Serge Sauvion vous raconte la suite de Crime Story et de l'épisode « Cet étrange film ».
Dans la petite banque de Wallisfield, un hold-up a été commis. Heureusement, une caméra automatique a filmé la scène. Le film contient sûrement un indice, se dit l'inspecteur, puisque Jim Tracy s'est fait tuer pour le récupérer. Ça fait au moins 30 fois que je regarde ces images à la recherche du moindre détail qui aurait pu inquiéter Tracy. Rien. Je ne vois rien. La seule chose qui m'intrigue, c'est le calme qui règne à l'arrière-plan, dans la grande rue de Wallisfield. Vraiment, on a l'impression que la ville entière fait la sieste. Soudain, c'est vraiment bizarre, je remarque que tous les cendriers dans la banque sont vides et propres. Par ailleurs, les piles de formulaires sur les tables sont soigneusement rangées. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi-là? Personne n'est passé à la banque. À moins que... L'après-midi même, je vais interroger Mademoiselle Duncan. Elle écoute mes questions et sourit. Vous vous cassez la tête pour des bêtises, lieutenant. Il suffisait de me le demander. Le vendredi soir, je m'ennuie tellement que je range un peu avant de partir. Vous rangez aussi les voitures, Mademoiselle Duncan? On n'en voit pas passer une seule dans le film. Tout à coup, elle s'énerve. Enfin, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous l'avez, votre voleur, non? Je vous ai dit qu'il n'y avait presque personne dans la ville le vendredi soir. Je ne vous crois pas, Mademoiselle Duncan. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de hold-up vendredi dernier. Vous avez mis en scène toute cette histoire avec l'aide de la caméra et je suppose que vous avez fait ça un dimanche matin. Ce jour-là, la rue est déserte. De plus, vous étiez sûr que personne ne viendrait déranger votre petit tournage. Aussi, ce dimanche-là, vous avez simulé un vol avec votre ami Tracy. Ensuite, vendredi, il vous a suffi de vous attacher au distributeur à café. Vous avez appelé au secours après avoir pris soin de mettre le film dans la caméra. Et voilà. La police s'est lancée à la recherche d'un voleur alors que l'argent était tout simplement caché dans la banque. Je suppose que vous l'avez emporté tranquillement le lendemain. Bravo, mademoiselle. C'est vraiment un plan magistral. La jeune femme a semblé paniquer un instant, mais elle s'est vite reprise. Elle est vraiment très forte. Maintenant, elle sourit. On dirait même qu'elle me nargue. Vous êtes d'une rare intelligence, lieutenant. Quel dommage vraiment que vous n'ayez pas la moindre preuve. Tout ce beau raisonnement et pas le moindre petit élément pour le confirmer. Oh, c'est vraiment trop bête. C'est vrai que c'est bête. Le soir même, je regarde encore une fois le film jusqu'à en avoir mal aux yeux. Mais il n'y a pas le moindre indice, pas le moindre détail qui puisse indiquer qu'il a été tourné un dimanche. À l'évidence, je n'arriverai pas à coincer Mademoiselle Duncan, d'autant qu'elle a donné sa démission de la banque. Elle part demain soir pour une destination inconnue. Le lendemain matin, après avoir encore passé des heures à m'esquinter les yeux sur cette fichue bobine, je sors me promener un peu. Il est midi. Des gamins sortent de l'école et courent autour de moi. Il y en a un qui joue tout seul avec un ballon. Comme je passe à côté de lui, il me le lance. Je le lui renvoie en riant. « T'as l'air embêté, » me dit-il. « Eh oui, bonhomme. Je connais une fille qui a commis un crime, mais je ne sais pas comment l'arrêter. »«
T'es détective ?»
me demande le gamin, les yeux. « Eh, mais tu vois... Contrairement à ce qui se passe dans les films, on trouve pas toujours la solution.
C'est parce que tu t'y prends mal, réplique-t-il. Ou alors t'as pas de chance. Les détectives dans les films, ils ont toujours un coup de chance dans les 5 dernières minutes.
Nous marchons ensemble. Je l'accompagne vers sa maison. Il me parle de ses cours, de ses récréations, de ses soirées. Soudain, une phrase qu'il me dit m'arrête net sur le chemin. Ça y est. J'ai trouvé.
Qu'est-ce qu'il y a?
Me demande le garçon.
Rien, petit, rien, mais grâce à toi, je vais pouvoir arrêter la criminelle.
Tu vois? Tu as été ma chance. J'ai pas le temps de lui expliquer, tandis qu'il me regarde les yeux écarquillés. Je lui fais un petit salut de la main, puis je cours en sens inverse. J'avais peur qu'Hélène Duncan ait changé d'avis et qu'elle soit partie à l'heure du déjeuner. Heureusement, elle est toujours là, derrière la vitre, à sa caisse. Lorsqu'elle me voit, elle me fait un petit signe moqueur de la main. J'entre dans l'agence. Près du comptoir, devant elle, il y a deux grosses valises. C'est gentil de venir me dire au revoir, me dit-elle. Où partez-vous? Au Mexique, pour commencer. On dit que l'arrière-saison est très belle là-bas. Ensuite, j'ai bien envie de découvrir l'Europe. Voyez-vous, j'ai fait un héritage inattendu. Une vieille tante dans le Michigan. La vie réserve de ses surprises tout de même. Et encore, vous n'avez pas tout vu, lui dis-je. Cet après-midi, vous allez encore avoir une surprise. Elle sourit. Si elle savait ce que je lui prépare, elle serait moins insouciante. Tout l'après-midi, je reste debout dans l'agence. J'ai bien trop peur qu'elle file. Enfin, vers 5h30, elle range ses papiers, elle ferme sa caisse. Je l'arrête devant la porte de la banque. Chère mademoiselle Duncan, le Mexique attendra. Il attendra même une bonne dizaine d'années. Mais vous êtes fou! Vous êtes fou! Laissez-moi passer ou j'appelle la police. Vous avez vraiment du culot, mademoiselle Duncan. Elle pose ses valises et se mordille les lèvres. Ça y est, elle commence à avoir peur. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je vous donnerai $5,000. Qu'y a-t-il, mademoiselle Duncan? Vous avez peur pour l'avion? Bon, il y en a à toutes les heures, vous savez.
Non, par pitié. Je partagerai avec vous.
Trop tard, mademoiselle Duncan. L'heure du verdict a sonné. Je regarde ma montre. 5h53. Dans 2 minutes, la jeune femme sera confondue. J'ai fait une erreur, lui dis-je. Je me suis obstiné à chercher dans le film la preuve qu'il était tourné un dimanche. Et puis aujourd'hui, j'ai compris qu'il valait mieux prendre le problème à l'envers. Je vais donc vous démontrer que le fameux hold-up n'a pas pu avoir lieu un vendredi. Et je vais vous le démontrer maintenant. Il était exactement 5h55. Soudain, des cris percèrent le silence. Et bientôt, deux par deux, des enfants passèrent devant la banque. Ils vont au stade pour le cours de gymnastique. Tous les vendredis que le bon Dieu fait, les enfants de cette école sortent à 6h05 pour aller faire du sport. C'est un de mes jeunes amis qui me l'a raconté. Or, voyez-vous, mademoiselle, pas la moindre trace de ces enfants sur le film du hold-up. Je vous laisse tirer vous-même les conclusions.
Comment ai-je pu faire une telle erreur, s'écrie-t-elle, folle de rage. En plus, je vous ai mis sur la voie. Lorsque vous m'avez demandé s'il y avait personne dans les rues le vendredi, j'ai eu un instant d'hésitation parce que je me souvenais de ces satanés gamins.
Mademoiselle Duncan, il y a un autre détail qui m'a intrigué. Rappelez-vous, je vous ai demandé si le voleur avait des clés dans sa poche, s'il faisait un bruit de clé en marchant. Elle me regarde avec perplexité. C'est pourtant simple, mademoiselle. Le voleur avait une chaîne pour vous attacher. S'il en avait eu une autre dans la poche, vous l'auriez entendue. Elle aurait fait un bruit de clé. Donc, il n'avait pris qu'une chaîne, comme s'il savait que vous seriez seul ce jour-là. À un moment, vous avez dû sentir que j'étais sur votre piste. C'est pour ça que vous m'avez jeté tracé dans les pattes. Pour vous, c'était tout bénéfice. Soit il me tuait et vous étiez débarrassé de moi, soit je le tuais et vous pensiez que sa mort me suffirait. Malheureusement pour vous, mademoiselle Duncan, elle ne m'a pas suffi. Après un instant de silence, mademoiselle Duncan me dit en souriant « Désolé, lieutenant, mais il faudra vous en contenter. Car dans quelques instants, je vous prédis, moi aussi, une surprise. Voyez-vous, lieutenant, je prends toujours plusieurs précautions. » 10 minutes plus tard, l'inspecteur Spencer arrive en trombe. Il est essoufflé et il a bien du mal à parler. « Lieutenant !» Lieutenant, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai regardé votre film au commissariat. J'ai allumé une cigarette trop près et il s'est mis à flamber. Quel dommage! S'écrie Hélène Duncan, radieuse. On peut dire que le sergent Spencer me rend un fier service, malgré lui, bien entendu. Inutile de pavoiser, mademoiselle Duncan, lui dis-je. Vous n'avez pas pu m'acheter, mais je vois que vous avez eu plus de chance avec le sergent. N'est-ce pas, Spencer? Mais tous vos efforts sont inutiles, mademoiselle. Voyez-vous, moi aussi, je prends toujours plusieurs précautions. Figurez-vous que j'ai fait faire une copie du film. Eh oui, un accident est si vite arrivé. Je regarde fixement mademoiselle Duncan. Et cette fois, c'est moi qui souris. Whisky, monsieur? Parfait. Eau plate ou gazeuse? Sec? Très bien. Je vous sers ça avec des olives et des amandes salées pour accompagner le tout. Mais oui, c'est calme à cette heure-ci. Oui, en fait, ça l'est tout le temps. Mais moi, ça me dérange pas. J'aime ça. Puis les clients aussi. Ils apprécient mon bar. Le plafond avec ses solives apparentes, le comptoir en tête luisant comme un miroir. Et surtout l'ambiance. Ah, l'ambiance. Tout est là, monsieur. Ici, ils se sentent un peu chez eux. Non, je parle des habitués, bien sûr, pas de ces types qui entrent en coup de vent, avalent n'importe quoi à toute vitesse et repartent se faire pendre ailleurs. Non, non, ceux-là, je les sers parce qu'il faut bien vivre. Mais les habitués, ah, c'est autre chose. Je les bichonne. Et ils le sentent et ça les entraîne à me faire des confidences. Tant moi, je leur demande jamais rien, remarquez. Non, non, c'est eux qui se laissent aller. Parce qu'ils sentent en confiance et que ça leur fait du bien. C'est rare de nos jours de trouver quelqu'un à qui causer, à part les prêtres, les psychiatres et nous, les barmen. Oh, j'en entends des choses, croyez-moi. Puis pas seulement des histoires de types qui ont été plaqués par leurs femmes ou ruinés par leurs percepteurs. Non, 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 non. J'ai droit à des tranches de vie bien saignantes, monsieur. Et parfois même des trucs extraordinaires. Incroyables. Ah, je vous vois sourire. Vous êtes sceptique, hein? Ben, vous avez tort, je vous assure, monsieur. Tenez, par exemple, vous voyez ces deux types là au fond de la salle? Non, 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 non. Non, vous retournez pas. Jetez simplement un petit coup d'œil dans la glace, là, ce sera aussi bien. Vous les voyez? Bon. Le gros, au crâne chauve comme une boule de billard, c'est Monsieur Georges. Oui, comme il a un nom compliqué, le prénom, ça va plus vite. L'autre, Thomas, le petit tout maigre, là, c'est à peine s'il touche son verre. Et encore, c'est de la bière. Ah oui, je vois bien que vous vous dites, ces deux-là, ils ressemblent à tout le monde et à n'importe qui. Eh ben, figurez-vous que vous vous trompez lourdement, monsieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mêlés à un coup fumant. Une arnaque d'enfer. Parfaitement. Vous savez, on raconte dans les journaux que le crime ne paie pas, hein? Eh ben, ces deux types-là sont une preuve vivante que si. Leur histoire, elle se déroule dans un petit bled de la Nouvelle-Angleterre. C'est là qu'il vit, notre George, dans une maison que sa famille possède depuis des générations. Sa mère, qui était couturière, lui a légué les quatre murs avec en prime une éducation pleine de préjugés. George ne songe qu'à une chose dans la vie, être respectable. Et il fait tout pour ça. Ah oui, il appartient à toutes les associations, tous les clubs du bled, des joueurs de bridge aux enragés du bingo. De quoi vit-il ? Ben, des leçons de piano qu'il donne aux moutards et aux adolescents boutonneux. Bien sûr, ça rapporte pas des masses et notre George ne roule pas sur l'or. Mais, comme il dit, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Et dans la petite ville, tout le monde s'accorde à penser que George est un garçon très bien. Alors ça, vous voyez, c'est la partie visible de l'homme. Mais il y a en lui un autre personnage, une sorte de Monsieur Hyde de ce Dr. Jekyll. Il rêve, notre George. Il rêve qu'il pourra un jour foutre le camp de ce damné bled, dépenser sans compter, connaître la grande vie, s'éclater, quoi. Et il étouffe ici, il étouffe. Il considère qu'il a une revanche à prendre et qu'un jour, il réalisera quelque chose de formidable, d'admirable, où se manifestera son génie. En attendant, ben, il s'évertue à faire comme tout le monde, à rester dans le troupeau. Et voilà qu'un jour, survient une catastrophe. Un fast-food s'installe en face de chez lui. Dans cette salle où on débite des hamburgers, des cheeseburgers, des hot-dogs à cadence infernale, il y a de la musique toute la sainte journée. Résultat, non seulement notre pauvre professeur s'en bouche les oreilles avec horreur, mais le son de son piano ne peut rivaliser avec les décibels électroniques et dans son petit salon, on ne s'entend plus. Alors, notre George va voir le gérant du fast-food, brave type au demeurant, et lui explique le problème. Mais que peut faire cet homme contre le goût de ses clients ? George décide alors d'aller voir ses amis haut placés, ceux qui lui tapent sur le ventre dans les clubs et les associations où il se dévoue avec tant de civisme. N'est-il pas un citoyen modèle ? Bah, ils seront sûrement une joie de l'aider dans son juste combat contre la barbarie. On pourra alerter les autorités, faire circuler des pétitions. Mais notre prof de piano découvre alors que tous ces gens se moquent bien de son sort. Ouais. Il se contente de hocher la tête en prononçant de bonnes paroles, mais prennent bien garde de ne pas se mouiller. Cruelle déception, donc, qu'il remâche au fil des semaines, tandis que ses élèves se font de plus en plus rares. Bien sûr, il pourrait déménager, mais tout est si cher. Et puis son compte en banque fond si vite au soleil. Tiens, aujourd'hui justement, il se rend à la banque pour effectuer la déprimante opération qui consiste à retirer un peu d'argent. Alors qu'il attend à un guichet, il voit le gérant du fast-food déposer sa recette de la veille. Il calcule mentalement que ce petit magot représente approximativement ses revenus de 6 mois. Et voilà que le monsieur Hyde, qu'il avait en lui, se réveille comme un démon longtemps maintenu en hibernation. Il lui souffle, « Dis donc, George, cet argent ne te revient-il pas en compensation de tout le mal que ce type te fait ?» De quel droit un créateur, un artiste comme toi serait-il guetté par la misère alors qu'un vulgaire vendeur de saucisses s'en met plein les poches ? C'est injuste, Georges. Profondément injuste. Je dirais même immoral. Quand le gérant quitte la banque, Georges le suit. Enfin, Je dirais plutôt qu'il se borne à se promener dans sa direction en l'observant du coin de l'œil. Il n'a aucun plan dans sa tête, non, c'est encore très vague. À cette minute précise, il ne sait pas encore trop ce qu'il doit faire. Il remarque que très tard dans la nuit, chaque soir, après avoir fait sa caisse, le gérant place sa recette dans un petit sac de cuir, sort par la porte de derrière et se dirige vers son domicile situé à quelque distance de là en empruntant une petite rue déserte et mal éclairée. Le lendemain, entre midi et 2 heures, il porte cette recette à la banque. Dans ce dernier cas, s'emparer de l'argent est pratiquement impossible, hein. En revanche, le soir, quand la ville dort, c'est envisageable. Notre Georges passe des heures à réfléchir et bientôt, il lui vient comme une illumination. La carte maîtresse qu'il possède, c'est sa réputation. C'est justement parce qu'il est un citoyen honorable qu'il a le plus de chances de réussir. Vous comprenez? Hein? Non. Pas encore. Non, c'est tout à fait normal. Une arnaque aussi géniale que celle-là ne peut pas se deviner si facilement, monsieur. Ah, vous avez fini vos amandes salées. Je vous insère d'autres. De grâce, cessez de vous dévisser la tête pour observer notre cher Georges. Vous allez attraper un torticolis. D'autant que, maintenant, j'ai besoin de toute votre attention. Le destin se met en marche. Les 3 coups sont frappés, nous entrons dans le cœur de l'intrigue. Dans quelques instants, vous connaîtrez le coup de génie de Georges, le monsieur tout le monde de l'escroquerie.
Condamnation à vie, Serge Sauvion dans Crime Story vous raconte la suite de l'enquête policière.
Un homme respectable et respecté vivant dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, professeur de piano de son état, a décidé de voler la recette d'un fast-food sans risquer de se faire prendre. Écoutons ce récit en notant bien chaque détail, car il a son importance. Un soir, Georges ferme les rideaux de son salon et place sur le tabouret de son piano un vieux mannequin ayant appartenu à sa maman. Il a pris soin de le surmonter d'une boule de tissu à laquelle il est parvenu à donner approximativement la forme de sa tête. Puis, il tamise les lumières et met en marche un magnétophone où il a enregistré les gammes et les arpèges auxquels il s'exerce habituellement. Enfin, il ouvre les rideaux. Pour tout observateur de l'extérieur, il ne fait aucun doute que Georges est chez lui et joue du piano. Il sort ensuite par derrière et se dissimule dans la petite rue déserte et mal éclairée qu'emprunte habituellement le gérant du fast-food. Il a mis un masque, une sorte de loup, qui dissimule ses yeux mais laisse à découvert le bas de son visage. Bientôt, Georges entend les pas du gérant. Est-il anxieux? Son cœur bat-il à court doublé dans sa poitrine? Pas le moins du monde. Avant de partir, lui qui est un modèle de tempérance et fait d'ailleurs partie de l'association anti-alcoolique de la ville, il a bu quelques gorgées d'un excellent cognac français. Non seulement ça lui a donné un moral d'enfer, mais ça fait partie de son plan. Voilà le gérant qui se rapproche. Il parvient à sa hauteur, du pas calme de celui qui ne se doute de rien. Georges bondit et lui enfonce dans le dos le canon d'un revolver de gosse. D'une voix aiguë, une voix de fossé, il lui crie qu'il le tuera s'il ne lui donne pas son argent. Ensuite, il le bâillonne et lui lie les chevilles et retourne tranquillement chez lui par le même chemin. Il ne reste plus qu'à fermer les rideaux, faire disparaître le mannequin et reprendre sa place. Jeu d'enfant, un petit chef-d'œuvre. Oh, je vous vois hocher la tête d'un œil goguenard, monsieur. Je peux savoir pourquoi, sauf votre respect. Ah, oui. Vous vous dites qu'il s'est donné bien du mal pour rafler la recette d'une misérable petite journée. Oui, je vois que vous n'avez pas encore compris, monsieur. Si je vous dis qu'il prend ensuite les billets de cette maigre recette et qu'il les brûle, aurez-vous progressé dans votre approche de cette arnaque de génie? Hein? Non? Alors, je vais être obligé de tout vous expliquer par le menu. Mais auparavant, que diriez-vous d'un autre scotch? C'est la maison qui l'offre. Allez, d'accord. Bon, où j'en étais? Ah oui, oui. Les billets brûlés. Bon, certes, Georges a été tenté de garder l'argent, mais il sait très bien qu'en le conservant, ou en le dépensant, même au compte-gouttes, il risque de laisser subsister un indice qui le liera au vol qu'il a commis. Or, il doit être parfaitement étranger à ce vol. C'est pour cette même raison qu'il jette, non sans regret, le flacon de cognac français qu'il avait acheté dans une ville voisine. Ce dernier détail vous met-il sur la voie, monsieur? Pas encore. Aucune importance. Les choses ne vont pas tarder à se préciser. Je vous le garantis. Dans les jours qui suivent, Georges ne change strictement rien à ses habitudes de vie. Il retire parcimonieusement de l'argent à sa banque. Il ne prête qu'une oreille distraite aux rumeurs qui courent concernant l'agression dont a été victime le malheureux gérant. On dit que le shérif Bradley est sur une piste et on lui fait confiance. C'est un as. Et puis, au bout de la semaine, les choses changent brusquement. Le gérant du fast-food voit arriver un soir un nouveau client, qui n'est autre que Georges. Il semble avoir bu. Sa voix est aiguë et son haleine fleure bon le cognac. Que croyez-vous qui va se passer? Le gérant sent naître en lui des soupçons. À la vue de cet homme dont le bas du visage, l'haleine, la voix, lui rappelle son agresseur. Georges semble le regarder d'un air goguenard, le provoquer même, voyez? Bientôt, le gérant en est sûr. Son voleur n'est autre que ce satané professeur de musique qui s'était plaint auparavant d'être empoisonné par ses décibels. Mais oui, il en est sûr, il en mettrait sa main au feu. Alors un soir, il s'arrange pour le faire boire. Et Georges, à demi-mot, lui laisse entendre qu'il est effectivement l'auteur de cette agression. À la place de ce brave gérant, qu'auriez-vous fait, monsieur? La même chose que lui, je suppose. Il appelle le shérif. Et voilà le shérif Bradley qui débarque avec son grand chapeau sur la tête et son air faro et passe les menottes à Georges. Notre héros, lui, se retrouve sur la paille humide d'un cachot. Il clame son innocence, mais personne ne l'écoute. Ses amis se détournent de lui. Son nom est rayé de toutes les associations dont il fait partie. Il est la honte de la cité. Durant le procès, le gérant affirme de nouveau que Georges est bien l'homme qui l'a agressé et dépouillé. Seulement, cette fois, il a en face de lui l'avocat engagé par notre professeur de piano. Un ténor du barreau de l'espèce coriace qui se fait une joie de mettre en pièce l'accusation. « Messieurs, explique-t-il aux membres du jury, remarquons que l'agression s'est déroulée la nuit, avec pour seul témoin la victime, au moment où, justement, mon client jouait du piano dans son salon. Et cela, des témoins passant dans la rue, des voisins, peuvent l'attester. Quels sont les éléments qui permettent au gérant d'affirmer que c'est Georges l'agresseur? La voix aiguë? L'haleine sentant le cognac français, le masque dévoilant le bas du visage. Mais enfin, vous avez pu constater que Georges a une voix tout à fait normale. 10, 20, 30 témoins de moralité vous diront qu'il ne buvait jamais. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé trace d'alcool chez lui. Quant au fait de dévoiler une partie de son visage, il faut être idiot ou fou pour le faire quand on agresse quelqu'un. Et mon client n'est ni l'un ni l'autre. Et je n'en dirai pas autant de son accusateur. Il affabule. C'est évident, il affabule. Non, messieurs. Tout cela ne tient pas. Bien sûr, monsieur, notre cher Georges a été acquitté et, sous les ovations du public, part-il marcher. Seulement, il considère qu'il a été traîné dans la boue à cause de ce procès, que son honneur est souillé, qu'il a subi un préjudice moral. Aussi, le plus logiquement du monde, il... Ah, je vois votre œil s'allumer, monsieur. Vous avez compris, je pense. Hein? Eh ben oui. Notre héros assigne le gérant en dommages et intérêts. Et il gagne, bien sûr. Hein? Combien? Un gros paquet. 65 000 $. Pas mal, non? Avec en prime la même somme payée par le shérif Bradley pour séquestration arbitraire. Coup double, le jackpot. Bien sûr, comme le gérant ne roule pas sur l'or, la société qu'il emploie, histoire de préserver son image de marque, apporte une bonne partie de l'argent et le vire aussi sec. Et d'un. Même chose pour le shérif. La ville paie les pots cassés et l'envoie cultiver ses choux, lui aussi. Et de deux. Génial, non? Je vois qu'il y a là quelque chose qui vous intrigue, monsieur. Pourquoi je vous raconte tout ça? Bon, il risque rien, Georges, vu que 10 ans se sont passés depuis cette affaire et qu'il y a prescription, comme on dit. Il dort sur ses deux oreilles, tranquille comme Baptiste. Hein? Depuis combien de temps il est dans le coin, Georges? Bon... Deux ans, à peu près. Il a débarqué un jour comme ça parce que le coin lui plaisait et que c'était tranquille. Il s'est acheté une maison où il vit à longueur d'année, à ne rien faire, si ce n'est qu'une chose. Boire, alors ça, on peut dire qu'il s'imbibe. C'est pas comme Thomas, son copain. Lui, il est arrivé un peu après. Il a loué une chambre chez l'habitant pendant un certain temps et puis il a pris pension chez Georges. Maintenant, on ne les voit plus l'un sans l'autre. Il y a même des clients qui prétendent qu'ils s'espionnent mutuellement. Pardon? Comment? Vous n'avez pas encore compris, monsieur? Ben voyons, Thomas, c'est l'ancien gérant du fast-food. Comment il a su que Georges était ici? Ah, ça, ma foi, j'en sais rien. En tout cas, on dirait bien qu'il représente quelque chose comme la statue du commandeur. Vous voyez ce que je veux dire? La justice en chair et en os poursuivant le crime. Le bien taraudant le mal toute la sainte journée. Le remords, enfin, tout le saint frusquin, quoi. Comment? Vous n'y croyez pas? Vous pensez qu'ils ont monté le coup tous les deux, dès le départ, pour se procurer le pactole? Oh, c'est pas ordinaire d'être dans ça. Vous êtes le premier à me sortir ça. Remarquez, ça se tient à la réflexion. Mais alors, à ce compte-là, la combine serait encore plus géniale, non? Ah, vous pensez que non, vous? Oui, parce que, à votre avis, ils sont maintenant condamnés à dépenser le fric ensemble en s'espionnant mutuellement, tels deux forçats liés par la même chaîne. L'image est belle, monsieur. Très belle. Mais alors, ça voudrait dire que bien malaki ne profite jamais, comme me serinait ma maman quand j'étais gosse. Bon, pourquoi pas? Ce serait assez moral, au fond. Ici, notre barman interrompt son récit. Dans le fond du bar, Georges et Thomas semblent se disputer. Ça leur arrive très souvent. Alors le barman leur crie « Georges, Thomas !»
Allez régler vos comptes ailleurs, je veux pas d'histoire ici.
Les deux hommes le regardent fixement, puis George a un large sourire.
D'accord, vous fâchez pas, shérif.
Et ils éclatent de rire tous les trois. George, l'ancien professeur de musique, Thomas, l'ancien gérant du fast-food, et Bradley, l'ancien shérif de la petite ville où toute cette histoire s'est déroulée, reconverti comme barman. Il rit en se tenant les côtes, comme trois bons copains qui ne se sont jamais vraiment quittés, comme trois complices qu'ils sont et resteront toujours, liés par la plus étonnante, la plus géniale des arnaques.